RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous savez, malheureusement, il y a de plus en plus de violence dans le sport amateur, et notamment dans le foot amateur. Alors, il y a peut-être une solution, c'est le district de foot du Var qu'il a peut-être trouvé. On expérimente, ça se passe aussi dans d'autres endroits, mais dans le Var aussi, on expérimente un dispositif depuis le début de la saison, des caméras embarquées sur les arbitres. Vous savez, les caméras piétons pour sécuriser les arbitres et puis aussi pour que les joueurs sachent qu'ils sont filmés et que donc s'il y a des mauvais comportements, aussi bien des violences verbales que physiques, eh bien c'est capté par ces caméras. Alors visiblement c'est assez efficace, ça rassure tout le monde. Voilà, vous jouez et vous savez que vous êtes filmé en même temps. Il faut en arriver là, c'est peut-être désolant, mais est-ce que c'est une bonne solution? Tiens, vous avez peut-être expérimenté ces matchs avec des arbitres ayant une caméra sur leur torse. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que ça a apaisé les choses? Venez témoigner au 32-16. Bruno Poncet.
Je trouve ça triste d'en arriver à ça, mais si ça peut permettre de repacifier certains terrains de foot en départemental... faut peut-être le faire, mais je trouve que en fait l'exemple devient aussi duo, et c'est-à-dire que à partir du moment qu'on a des professionnels et même des gens de l'équipe de France qui continuent à mal parler aux arbitres et tout, dernièrement ils ont commencé à insonoriser les arbitres, et là tu sens qu'à un moment donné ça va calmer un peu, parce que beaucoup de joueurs se plaignent aussi du comportement de certains arbitres qui parlent mal aux joueurs. Là l'arbitre l'autre fois, mais je sais plus quel match, où il a expliqué pourquoi il a pris telle décision et tout,
comme dans le rugby en fait.
Voilà, et moi je trouve que le comportement des joueurs au rugby est exemplaire. Si tu t'approches auprès de l'arbitre, tu peux te reprendre un carton jaune, tu perds 10 minutes.
En même temps, dans le foot, c'est ça. Maintenant, il n'y a que le capitaine qui a le droit.
Qui a le droit, normalement.
Mais bon, d'aller discuter avec l'arbitre.
Les autres peuvent être sanctionnés. Verratti a-t-il déjà été capitaine? Je ne crois pas. Et pourtant, Verratti parlait beaucoup aux arbitres. Non, mais je trouve que c'est quand même dommage d'en arriver à ça. Et moi qui ai joué à un niveau amateur, et peut-être même plus bas que la 3ème division départementale, c'était quand même compliqué. Tu n'avais pas d'arbitre officiel. Donc, déjà, c'était souvent un dirigeant qui faisait l'arbitrage. Bon, des fois, si tu étais à l'extérieur, tu pouvais sentir un petit peu la différence. Tu étais un peu volé. Mais en fait, c'est bien de mettre une caméra. Ça, c'est peut-être un truc que tu peux développer partout, mais c'est quand même compliqué. Mais surtout aussi, c'est que
ça demande des moyens, effectivement.
Tellement en moins d'arbitres, parce qu'aujourd'hui, si tu veux des arbitres en départemental, tu en as quasiment plus, en fait.
Bah, si c'est pour se faire agresser,
ça
en est
grand.
Bien sûr qu'on entend ce que tu dis, Bruno, en disant que oui, c'est dommage qu'on en arrive là, sauf que le monde devient fou. Donc, Et puis là, de mettre des caméras sur les arbitres, c'est pas pour faire joli, c'est pas non plus pour faire des highlights sur TikTok. C'est juste parce qu'il y a trop de pression, il y a des agressions parfois. Donc oui, il faut en arriver là. Maintenant, on va être honnête, ça va coûter cher. Il va y avoir tout ce qui est droit à l'image, RGPD, etc. Donc là aussi, il va falloir faire attention.
C'est 7000 euros la caméra.
Ah bon?
Ah oui, cher que
ça. Ça me paraît très cher.
Oui. Je travaille mes sujets, moi, messieurs.
Non.
Pourtant, on a des biens à 100 balles, je pense.
Oui.
Vous savez quoi? On va demander à un arbitre, parce qu'on a un arbitre 32-16 qui expérimente justement ces caméras. Emmanuel.
Oui. Moi, je dirais deux choses en complément. C'est que c'est une évolution technologique. Faut pas être contre le progrès, même quand on est conservateur. Et ça vient
c'est
du monde anglo-saxon. C'est d'utilisation très pratique. Ça sert aussi, par exemple, même dans les hôtels, par exemple, quand il y a des rixes ou des conflits entre clients, vous avez un service de sécurité qui va vous auditionner avec ce type de matériel. Mais le pendant, au risque de surprendre Sandrine, le pendant, c'est aussi le laxisme généralisé judiciaire où on a besoin de la preuve, de la contre-preuve, de la preuve supplémentaire pour pouvoir prendre une décision.
Alors,
si la société se tenait, l'arbitre est digne de foi, c'est un peu quelqu'un qui représente l'intérêt général dans son contexte d'intervention, il devrait avoir la crédibilité au-delà d'une preuve visuelle ou sonore pour faire condamner quelqu'un en cas d'écart.
Alors déjà, viens avec moi au tribunal, dans les prétoires, tu verras que le laxisme judiciaire, il n'existe pas. Parce qu'il y a nettement plus de mandats de dépôt qui sont décernés que requis. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Donc finalement, il n'y a pas de laxisme judiciaire.
Oui, mais comme il y en a très peu,
il faut qu'il y ait des preuves. Non mais Manuel, évidemment qu'il faut des preuves pour pouvoir caractériser une infraction et ensuite de quoi condamner une personne et l'incarcérer ou non. Mais sans preuve, tu ne peux rien faire. Donc là, en effet, ça pourrait être une preuve. Constitué.
Alors, c'est 600 euros la caméra. Ouais, voilà. Et ça fait que ça a coûté autour de 7000 euros pour le district d'acheter toutes ces caméras. Voilà. Donc, c'est quand même un certain budget pour du foot amateur. Hein. A priori, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Les gens payent eux-mêmes leurs maillots, etc. Kylian est avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous appelez de Rennes, en Ille-et-Vilaine, bien sûr, dans ce département breton. Vous êtes arbitre?
Oui, depuis 8 ans.
Dans le district 35, justement. Et vous avez cette caméra?
Ouais, du coup, j'ai pu la voir sur deux matchs, des matchs tendus où il y a eu des précédents cette saison. Ouais.
Alors racontez-nous comment ça se passe.
Eh ben, c'est une commission de prévention qui choisit des matchs à risque ou des matchs où il y a eu des précédents, où il y a eu des incidents, ou des matchs pour la montée et la descente, et ils choisissent de faire porter la caméra à l'arbitre.
D'accord. Et est-ce que ça a calmé les choses? Est-ce que vous avez constaté pendant le match que les esprits étaient apaisés?
Calmez-vous, bah, tout est filmé.
C'est calmez-vous, vous êtes filmé.
Pendant mon premier match que j'ai arbitré avec la caméra, j'ai quand même réussi à mettre 7 cartons jaunes.
Ah oui, quand même.
Donc je pense pas que ça apaise vraiment beaucoup les choses. Et au contraire, j'ai même été confronté à une autre forme de contestation. C'est il va pouvoir voir les images à la mi-temps, il reviendra sur sa décision. Alors que nous, on n'a pas du tout accès aux images, même après le match.
Oui, vous avez accès, c'est uniquement une protection, c'est-à-dire que si jamais il se passe quelque chose, c'est une preuve, voilà.
C'est la commission de prévention qui déclenche l'utilisation ou non de la caméra.
Mais est-ce que quand même on vous parlait mieux, les joueurs vous parlaient mieux avec cette caméra?
J'ai pas ressenti ça, pour moi c'était un match comme un autre.
Mince, donc c'est plutôt un échec alors.
Chasser naturel, ça revient vite au galop.
Ça peut peut-être servir sur les comportements dehors du terrain, plus les supporters, la rentrée au vestiaire, où là on est assez vulnérable.
Mais vous constatez quand même cette violence au quotidien sur ces matchs où c'est simplement certaines rencontres, certaines équipes?
Ça dépend vraiment. Il y a certains matchs où le match où j'ai dû arbitrer, le match d'avant, il y avait eu des jets de fumigène, des pétards sur le stade et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis la caméra sur ce match-là. Parce que le match aller, c'était mal passé. Mais sur le bord de la pelouse, il y a beaucoup de supporters, insultes et tout ça, qui ont venu le match. Ouais.
Merci Kylian, pas très convaincu quand même par ces caméras piétons sur le maillot de l'arbitre. Antoine est avec nous au 32-16 également. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, vous êtes arbitre vous aussi,
oui,
au niveau régional en Normandie.
Exactement.
Vous avez aussi mis des caméras.
Alors, il y a des collègues à moi moi je suis dans le district de l'Orne, donc je suis juste à côté de mes collègues qui l'ont mis en place. Eux l'ont mis en place dans le Calvados. Je suis en relation régulièrement avec eux. Parce que pour le coup, moi je prône l'utilisation justement sur les matchs compliqués, comme disait Kylian juste avant. Aujourd'hui, les joueurs se sentent pour moi en totale liberté à partir du moment où malheureusement ils n'ont pas de choses qui peuvent les identifier ou les calmer sur des situations compliquées.
C'est-à-dire que le carton jaune, le carton rouge, ça suffit plus?
Aujourd'hui, il y a peut-être aussi une échelle de sanctions qu'il faudra revoir sur le niveau départemental ou peut-être régional. Mais aujourd'hui, la sanction, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression, malheureusement, certaines sanctions ne suffisent plus à maintenir le comportement de certains sur les terrains. Et aujourd'hui, au niveau départemental, quand les gars se retrouvent seuls sur le terrain face à 26 ou 28 acteurs, ça dépend combien il y a remplaçants des fois, ça peut être très compliqué quand on se présente seul dans un stade.
Mais est-ce que vous constatez que ça se dégrade en fait, que c'est pire en pire?
Tout dépend des coins, c'est toujours la même chose. Il y a des endroits qu'on n'entend jamais parler. Malheureusement, ça dépend aussi de la gestion d'un club, ça dépend de la gestion du village ou de la ville dans laquelle on se situe. C'est toujours la même chose. C'est un peu comme aujourd'hui, le contexte social qui se dégrade. Mais non, ça dépend vraiment des coins. Il y a un travail à faire avec les instances de chaque club. Il y a un travail à faire avec les instances qui se situent toujours plus hautes. Mais voilà.
Parce que ce que je comprends pas, c'est qu'il y a autant de violence dans le foot amateur. Parce que là, du coup, il y a l'enjeu n'est que sportif. C'est-à-dire que on pourrait imaginer le foot professionnel. Il y a la pression de l'argent, de la notoriété, de la pression médiatique. Là, c'est pas le cas.
Mais je me demande si finalement c'est pas une histoire de syndrome de Mbappé. Et justement, je voulais voir avec Antoine ce qu'il en pensait pour expliquer ses comportements avec ses parents là qui pensent que leurs enfants, leur progéniture, ça sera le futur Mbappé. Donc du coup, il a le droit de tout faire sur le terrain et donc jusqu'à banaliser la violence avec les arbitres. Est-ce qu'on pourrait pas expliquer ce comportement agressif des footeux amateurs par rapport à ce syndrome Mbappé? Vous en pensez quoi, Antoine?
Justement, par rapport au syndrome Mbappé, je pense que chaque parent maintenant se voit avec un petit Mbappé chez lui. Malheureusement, il y a peut-être 0,5% qui vont peut-être déjà arriver à rentrer dans un club professionnel. Le gros facteur qui pour moi est aussi inquiétant, c'est le rôle des parents au bord des terrains, qui malheureusement n'aide pas forcément au rôle de l'éducateur ou des clubs
C'est-à-dire que les parents qui sont au bord du terrain, au lieu de calmer leur môme en disant « comporte-toi mieux », parfois, ils sont derrière lui, ils l'encouragent.
Oui, parce qu'ils pensent qu'ils ont une petite star.
Oui, mais les parents devraient être du côté de l'arbitre.
C'est ça, et, déjà, et des clubs qui sont à petite échelle, pour le coup, des clubs de village, n'ont pas forcément tout le temps les moyens d'aller voir chaque parent pour leur dire plutôt encourager les gamins et accompagner-les plutôt que vulgairement sur l'arbitre.
Moi, je pense modestement, dites-moi ce que vous en pensez, que ce sont des jeunes aussi pour partie qui arrivent tellement ensauvagés et dans une certaine violence dans la vie normale que les éducateurs sportifs et le contexte du sport n'arrivent pas à réguler ce phénomène.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je vous disais. C'est la vie en globalité qui, je pense, a changé énormément de choses. Et qui,
oui, c'est le problème avant, en fait.
Un peu dans le football, parce que c'est l'un des sports les plus populaires, on va pas se mentir, et qui du coup, oui, se retransmet là-dedans. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de faire avancer. Et pour le coup, les caméras, malheureusement, c'est un pansement, mais qui est malheureusement nécessaire dans certaines zones.
Oui.
Ou alors interdire les parents durant les matchs.
Il n'y a pas que les parents. En fait,
si on doit en arriver à cette mesure aussi drastique.
Ouais, malheureusement, ça peut arriver par moment.
Ouais. Merci Antoine, merci de votre témoignage. Et puis Mathieu est avec nous également. Bonjour Mathieu, du côté du Morbihan, cette fois-ci à Rouen. Oui. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gégé.
Bon, vous êtes aussi arbitre de foot, il y a tous les arbitres nous écoutent. Hein. Tous les arbitres de France écoutent les grandes gueules le matin. Et vous êtes arbitre de foot depuis 3 ans dans votre département.
C'est ça, ouais.
Et alors cette caméra, vous trouvez ça bien ou pas?
Ouais, moi je trouve pas ça. Moi je trouve pas ça terrible.
Ah bon?
Parce que déjà la caméra va fixer à un endroit donné. Donc en fait, si on est dos au jeu, si on est dos à l'action et qu'il y a eu un mauvais geste, qu'il y a eu des mauvaises choses, déjà ça sera pas enregistré. Et puis on va se retourner. Et puis moi je trouve que ça c'est un peu ridicule. Il y a d'autres systèmes de caméras qui existent ou qui s'appellent, je vais donner le nom, qui s'appelle VEO, et où là ça va être une grande caméra qu'on va mettre sur un bord terrain et qui va filmer tout le match, qui va suivre tout le temps toute l'action. Et je pense que ça serait plus efficace parce que du coup il y a une plus grande vision du jeu, il y a une plus grande
oui, mais on voit peut-être pas forcément avec ces caméras précisément ce qui se passe entre un joueur et un arbitre au plus près,
et le dialogue,
des insultes.
C'est sûr, oui, alors après, c'est ce que je disais aussi. Des fois, on sait mal, je vais jeter un peu sur mes collègues, hein, mais des fois, on va regarder des feuilles de match, on voit les arbitres, on sait qu'il va avoir qui met des cartons rouges tous les week-ends ou au moins un week-end sur deux, et il n'y a pas de pédagogie. Moi, je sais que je ne viens pas du foot, moi, j'ai fait 27 ans de rugby avant. Je mets de la pédagogie, je parle, il y a beaucoup, on me dit, alors des fois, c'est un défaut parce que du coup, je vais essayer de. Des fois, je vais parler, et des fois, il y a des gens, hein, c'est des Bretons, hein, donc ils sont têtus, on aura beau leur parler, ils vont rien écouter.
Pourquoi les Bretons?
Avec le dialogue, ça passe plus facilement.
Et peut-être que les arbitres devraient expliquer un peu plus, comme au rugby d'ailleurs, parce que le rugby, l'arbitre, il explique pourquoi il a décidé la pénalité, peut-être qu'il faudrait faire un peu plus de pédagogie sur les décisions. C'est vrai que même nous, en tant que téléspectateurs, parfois on s'énerve sur l'arbitre parce qu'on comprend pas sa décision.
Et oui, moi je trouve que
même dans les écoles de foot,
dans les écoles de foot, on devrait faire de la pédagogie sur l'arbitrage. On va dire apprendre aux enfants les règles, les lois du jeu, parce que il y a des lois du jeu. Et je pense que moi, mon petit qui a 11 ans qui fait du foot, je peux lui montrer les lois du jeu. Il va pas savoir ce que c'est les lois du jeu. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire au foot? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au foot? Quelles décisions qu'on doit prendre? Et ça, je pense que ça devrait être aussi inculqué aux enfants qui viennent faire du foot. Nous, au rugby, on nous a appris les règles, on nous apprend les règles. Les règles du rugby, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Dans le foot, il y a un peu plus de cas de figure. Mais ça, c'est des choses qu'on devrait faire aussi dans les clubs. Alors, apprendre les lois du jeu, apprendre aux enfants à arbitrer, à apprendre tout. Et puis voilà.
Donc, souvent, plus de pédagogie, dit Mathieu. Oui. Mathieu, restez avec nous parce qu'un de vos collègues vient d'appeler et lui s'est fait agresser. Sylvain est l'arbitre depuis 23 ans. Donc, c'est un arbitre avec de l'expérience. Et il s'est fait agresser il y a 15 jours. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Indre-et-Loire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours?
J'ai fait un match à risque, j'arbitre moi de la première division, et puis il y avait un match avec possibilité de descente entre les deux équipes en troisième division, donc j'ai été placé sur ce match-là, donc le match s'est déroulé avec les aléas, hein. Comme je dis toujours, on peut faire des erreurs, là on est en troisième division départementale, donc encore une fois, le lendemain on va travailler. Et puis l'équipe qui a perdu, pour eux, j'ai pas bien arbitré, s'ils ont perdu entre guillemets, C'est un peu de ma faute, quoi. Ouais. C'est à mes erreurs. Encore une fois, qui peuvent être possibles, mais chacun décide et ouais. fait son rôle. Ouais. Et à la fin du match, je siffle la fin du match, il y a un joueur vers moi qui dirige vers moi, il me dit « Ouais, monsieur l'arbitre, vous êtes une grosse merde. Ah. » Donc, forcément, là-dessus, carton rouge, j'ai pas le choix. Et il avance vers moi, donc je recule, je mets du temps à sortir mon carton rouge. Et quand il me dit « Sors-le pas ou je t'attrape, sors-le pas ou je t'attrape. » Et bah, de toute façon, j'étais obligé de le sortir. Hein. Moi, il m'a dit ouais. « Pas, c'est pas ça. » J'ai sorti le carton rouge et hop, il m'a accroché au cou pendant 1 à 2 secondes. Quoi. Il a tenté de m'étrangler pendant 1 à 2 secondes.
Ah oui, quand même.
Eh oui, Sylvain. Bah oui,
est-ce que vous avez déposé plainte, Sylvain?
C'est ça, j'imagine. On va s'arrêter là parce que il nous reste quelques secondes. Enfin, on voit bien que les arbitres sont en danger. Il faut peut-être effectivement les protéger avec ces caméras piétons. En cas d'attaque contre le territoire national, 61% des Français déclarent être prêts à participer à des actions de protection civile. Donc il y a ceux qui veulent directement s'engager dans l'armée, il y en a quand même 61% qui sont prêts à participer à des actions de protection civile, comme du secours, de la logistique, du soutien aux populations. Autre différence notable entre la gauche et la droite, les électeurs de gauche sont beaucoup moins enclins à s'engager dans les forces armées que ceux de droite. Bon, ça c'est pas une grande surprise. Est-ce que vous faites partie de ces 17%? Est-ce que vous pourriez vous engager dans l'armée carrément pour défendre votre pays, Emmanuel?
Moi, très modestement, j'ai déjà donné. J'ai fait une préparation militaire parachutiste en 1984, oui. Pendant un mois, avec 4 sauts à Évreux. Ensuite, j'ai fait les EOR à Saint-Cyr-Couët-Quidan pendant 2 mois.
Formation là, on va peut-être
assez
rappeler,
difficile, lever 5h30, c'est beaucoup, beaucoup de sport, privation de sommeil. Et après, dans un calendrier de classement, j'étais pas bien classé. J'ai choisi le 9e bataillon d'infanterie de marine en Guyane, où j'étais chef de section pendant 10 mois. C'est une grosse formation. Je sais qu'Antoine Dirs aussi est impliqué.
Donc il y en a déjà 2 grandes gueules qui sont prêtes à s'engager.
C'est une formation, quel que soit le niveau, la filière, qu'on soit dans l'armée de l'air, de terre ou dans la marine. Et même les femmes, bien sûr, c'est quelque chose qui apporte énormément. Donc ça fait partie de la vie, l'armée. Il y a beaucoup de pays où c'est obligatoire. On n'en sort pas indemne, on en sort renforcé physiquement, en termes de formation, en termes de contact humain, de brassage, et aussi en termes d'expertise. Enfin, on ne voit pas la vie différemment, on est armé. Et ce que j'ai pu faire après professionnellement, ça a été une étape nécessaire pour moi.
Est-ce que tu serais prête à t'engager en cas de guerre, Sandrine?
Alors, figurez-vous que quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé faire partie de l'armée. Mais j'ai malheureusement dû renoncer à cette idée parce qu'il fallait me couper les cheveux. À l'époque, hein, je vous dis ça. Donc oui, c'est qu'une question esthétique, ne riez pas. Mais aujourd'hui,
ça tient pas grand-chose, un engagement.
Finalement, tu vois.
Une carrière de général, ça
mais
tient
partir
rien.
Partir à la guerre, hein, c'est pas un jeu, c'est pas un slogan, mais avec des cheveux, c'est toujours mieux. Non mais, on en rit, mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais 17 ans, 18 ans, c'était un des motifs de mon refus. Mais aujourd'hui, je serais prête à m'engager, et même dans la protection civile, etc.,
oui.
pour défendre notre pays.
Bruno?
Non, moi je m'engagerai pas, ça c'est
même
sûr.
Même dans la protection civile.
Oh. Ouais, voilà, j'ai besoin. Voilà. Et s'ils parlent de logistique, je peux les aider s'ils veulent, vu que c'est mon métier de départ.
Bah oui.
Mais voilà. Mais par contre, un truc qui est sûr, c'est que si demain t'es engagé dans une guerre, t'auras pas le choix. Ça s'appelle la conscription, et donc t'as pas le choix. Et puis deuxièmement, pour faire quoi? Moi je me rappelle, si on a reçu le général de Villiers au tout début que j'étais là, et on avait discuté, il nous avait bien expliqué qu'on était hyper affaiblis militairement, déjà d'un point de vue matériel. Quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, il nous expliquait qu'en fait on envoyait du matériel qui était limite vétuste, et qu'en fait on n'avait même pas de quoi trouver les pièces pour réparer ou quoi que ce soit. Donc si c'est pour t'envoyer, pour rendre des gens et en faire de la chair à canon, je vois pas bien l'intérêt. On ferait mieux aujourd'hui de plutôt, peut-être à un moment donné, déjà faire un peu de diplomatie serait déjà pas plus mal sur certains endroits, et puis peut-être à un moment donné renouveler nos stocks de d'armement, qui à un moment donné soit peut-être un petit peu
plus. C'est la volonté effectivement de ceux qui nous gouvernent,
ouais, qui payent.
Il va falloir trouver de l'argent qu'on n'a pas. Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
De Nice, dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes cuisinier, mais vous vous êtes inscrit comme réserviste, et alors à un moment bien précis, c'était au moment du début de la guerre en Ukraine.
Bah ouais, parce que en fait c'était l'information que j'ai vue sur toutes les chaînes et donc sur la vôtre aussi à ce moment-là, et que je me suis dit ça coûte rien, et puis allons-y quoi, parce que moi je suis prêt à défendre mon pays s'il est en guerre.
Vous aviez fait votre service?
Bravo Frédéric.
Moi j'ai fait mon service, j'ai 53 ans, j'ai fait mon service suite à 96-8 pour ceux qui ont fait le service militaire. Donc c'était le dernier service militaire, les derniers appelés. Mais en définitive, d'abord ça s'est très bien passé. Alors j'étais sur Saint-Denis puisque j'étais au Fort de l'Est, donc c'est la Courneuve, Saint-Denis. Et voilà, et ça s'est très bien passé. Et j'ai jamais porté le FAMAS. parce que je suis pas très arme et qu'il y a plein d'autres postes et plein d'autres choses où on peut.
Bah, vous pourriez être cuisinier dans l'armée.
Éventuellement aussi.
Faire les patates.
Pourquoi pas la pluche.
Et Frédéric, moi j'ai un ami qui a fait comme vous, qui s'est mis réserviste il y a quelques temps là. D'ailleurs je salue Fabien, je pense qu'il écoute. Et il m'avait expliqué que c'était retrouvé qu'avec des jeunes. Moi j'avais été hyper surpris. Parce que moi mon ami Fabien il a mon âge.
Moi je me suis retrouvé qu'avec des jeunes.
Ah ouais, lui il m'avait dit pareil, il m'a dit s'est retrouvé qu'avec des jeunes. Donc d'un point de vue.
Ce qu'on pourrait penser,
bah oui, ouais. C'est ça, moi je m'étais dit réserviste comme mon copain qui s'engage à plus de 50 ans. Et il m'avait dit par contre oui, physiquement c'est un peu compliqué parce que quand tu fais du corps à corps ou je ne sais quoi, trouver que gars de 20 ans qui te retourne.
Comment vous avez fait Frédéric alors?
Comment
ça s'est passé alors avec ces jeunes?
Ça s'est plutôt bien passé, mais effectivement, hein, quand il y a des choses un peu physiques à faire, bah, je suis un peu moins physique que ce que j'étais à 25-20 ans, quoi, c'est clair. Hein. Mais en l'occurrence, ça s'est bien passé, quoi. Vraiment.
Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que on voit bien que le retour de la guerre sur le continent européen avec ce qui se passe en Ukraine, tout d'un coup, ça fait prendre conscience aussi que
peut-être que quelque chose, il faut qu'on défende son pays. C'est
tout. Et voilà, c'est-à-dire que ça fait réfléchir sur la défense de notre propre.
Bien sûr.
C'est des choses qu'on avait totalement oubliées puisque on vivait en paix, on pensait que ça serait une paix indéfinie.
On vivait en paix, on faisait surtout éternelle. La guerre dans notre pays. Hein.
Mais on vivait en paix, on faisait
la guerre plutôt ailleurs, nous.
J'ai l'impression qu'il y avait moins ce sentiment, en tout cas pour moi, à l'époque où moi, donc je suis de la 96-8, et j'ai un ami qui avait mon âge et qui lui était engagé, et qui s'est retrouvé en ex-Yougoslavie. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, je pense qu'on pensait pas à ça.
Bien sûr,
être réserviste et ainsi de suite.
En vous écoutant, on entend la voix nette et virile d'un patriote.
Voilà. Merci, monsieur Deviquet.
Non, mais ça va être un vrai sujet de 2027, parce que vu le contexte international avec les prédateurs, la Russie, la Chine, etc., il va falloir vraiment qu'on revoie significativement notre façon de nous défendre, augmenter le volume de nos forces, et ça va pas être gagné.
Hein. Et le retour du service militaire?
Tu es
favorable?
Oui, je suis favorable.
Tu veux comment? Les casernes sont fermées.
Le problème, c'est que
les casernes sont fermées. On n'a pas d'argent déjà pour nous entretenir un pays et notre éducation et nos hôpitaux. Je vois pas comment tu peux refaire un service militaire où t'emmènes des millions de gamins chaque année pendant 10 mois ou 1 an. Enfin là, je trouve quand la mesure a été mise sur la table par le gouvernement actuel, je me dis mais ils savent pas dans quel pays on vit en fait. Tu regardes toutes les casernes françaises ont carrément été fermées. L'armée était le premier propriétaire terrien de la France. C'est comme ça fait des années et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs propriétés sont fermées ou ne servent plus à rien. Je ne vois pas à quel moment tu peux dire on va refaire le service militaire.
Malheureusement, Bruno a raison, on ne peut plus revenir en arrière là-dessus.
Non, on ne peut plus revenir, mais comment on peut faire pour impliquer peut-être davantage les jeunes? Alors, il y a ce service civique voulu par le président Macron pour les jeunes générations, mais c'est sur la base du volontariat.
Donc, ouais, c'est pas tout à fait la même chose non plus.
Non.
Oui, mais donc on fait quoi alors? On laisse faire, on joue aux jeux vidéo, voilà, c'est ça? Donc, à un moment donné, il va bien falloir repenser à tout ça. Hein.
Après, le sujet au jeu, c'est qu'on panique tous parce qu'évidemment, la guerre est à nos portes, que l'Ukraine, c'est pas si loin que ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même nous, depuis 4 ans, qui alimentons cette guerre en Ukraine en donnant des armes d'un côté, en vendant de l'autre côté aussi, certainement, en achetant du pétrole russe découvert en disant qu'il vient de la Turquie. Enfin, à un moment donné, on entretient ces guerres-là. On a fait des guerres dans des pays où on n'avait rien à y faire. Moi, je suis désolé, mais on a emmené nos soldats dans des endroits où ils sont morts, alors que, pour quoi?
Alors c'est triste pour les Ukrainiens. On vient de donner l'Europe 90 milliards d'euros.
C'est après.
Oui, bien sûr. Et la France 17 milliards. Mais comme m'avait dit un jour un ami quand je me prêtais de l'argent à un autre ami, il m'avait dit, tu sais, le prêt que tu fais, c'est un don.
Oui, donc il faut arrêter.
On ne sera pas remboursé. On peut pas baisser les carburants de 3-4 milliards. On donne 17 milliards à l'Ukraine, comme dit Bruno, in fine, pour entretenir une guerre tragique.
Pour éviter que la Russie gagne, surtout.
Oui, et puis vendre des armes aussi, parce que c'est un peu notre aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on vend le mieux en France.
On peut déposer les armes aussi et penser qu'on n'a plus à soutenir nos alliés. Ça paraît.
Non, il faut imposer la paix.
Aimerait bien.
C'est bien facile.
Donald Trump avait dit qu'il réglerait ça en 48 heures. Il n'y est pas arrivé, donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. Merci Frédéric d'avoir appelé en tout cas au 32-16. Frédéric qui est devenu donc réserviste au début du conflit en Ukraine. Ça, c'est intéressant. Mais 17% des Français, finalement, est-ce que c'est pas beaucoup?
Non.
Non?
Mais non, mais parce que, il n'y a plus de service militaire, donc ce côté engagement armé, aujourd'hui, c'est très abstrait, l'armée, pour la plupart des gens. Parce qu'en fait, ça fait un bout de temps que ton armée, tu la vois de loin, tu la vois se balader le 14 juillet sur les Champs-Élysées, mais dans ta tête, c'est pas l'armée. Moi, quand t'étais gamin, tu savais qu'à partir de 18 ans, tu risquais de te retrouver en kaki, et puis à crapahuter dans la boue, en fait. Mais ça, c'est une vision qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'armée, pour aujourd'hui, c'est très abstrait, hein. C'est pas quelque chose qui est dans notre quotidien, ça, c'est sûr. Hein.
Bah 17%, ça fait juste quand même 8 Français sur 10 qui ne se projettent même pas pour défendre leur propre pays. Donc c'est énorme.
C'est d'autant plus dans notre quotidien, pour prolonger le propos de Bruno, que énormément de régiments ont été dissous et ont quitté les régions, alors qu'avant, pareil, je prends l'exemple de Nantes, quand j'étais étudiant, il y avait plusieurs formations sur place. En tant que simple étudiant, on tombait sans arrêt sur des militaires.
Et t'as combien de villes aujourd'hui qui sont en désuétude en France parce que les régiments sont partis et les régiments faisaient vivre la ville? Parce que les militaires, quand ils étaient de perme, ils allaient dans la ville, ils faisaient vivre le commerce. Enfin voilà, il y avait une vraie économie. Aujourd'hui, ça s'est fini aussi. Hein.
Alors, on a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Êtes-vous prêt à vous engager militairement en cas de guerre? Et vous dites oui, chef, 40,9%. Ceux qui nous écoutent sont beaucoup plus patriotes, voyez, et non sûrement pas 60. Enfin, 40, Bruno, c'est beaucoup.
Comme Bruno, non sûrement pas.
Ah, oui, vous êtes dans les non sûrement pas. Et Emmanuel, oui, bien sûr. Oui, chef.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin.
Alors le paradoxe d'ailleurs, c'est que en ce moment au cinéma les films sont de plus en plus longs.
C'est vrai, commence de plus en plus tard.
Mais c'est vrai que notre concentration est en train de diminuer parce que on est happé par autre chose, notamment par les alertes. Regardez Jérôme Marty pendant que je parle, il est et sur son portable. Eh bien maintenant, est-ce qu'on peut regarder une série? Est-ce qu'on peut regarder un film? Est-ce qu'on peut se concentrer longtemps aujourd'hui? Et ça concerne pas que nos enfants, que nos ados. Hein. Ça concerne aussi les adultes. Vous savez qu'en Chine, ils ont inventé des séries qui font 40 secondes à 3 minutes. Ça va de 40 secondes à 3 minutes. Ça s'appelle le Donjou. Et ce sont des séries très très courtes qu'on peut regarder sur son téléphone. Et grâce à ça, rester concentré les 3 minutes ou un peu moins que compte la série. On en est là. Est-ce que on devient tous des poissons rouges, Sandrine Pégrand?
Moi, en fait, ça m'étonne pas du tout ça parce que je suis la première concernée. À chaque fois que je regarde un film ou que je vais au cinéma, pardonnez-moi, mais je pique un petit roupillon.
Oui.
Ah, ça, je sais pas.
Est-ce que tu regardes ton portable?
Oui, alors moi, je regarde mon portable parce que je suis avocat urgentiste. Tu vois comment je pique
la relation?
Si, si, parce qu'on sait jamais. Il peut y avoir un client qui est en garde à vue, qui a besoin de moi, et donc je peux pas laisser
Et chez toi, quand tu regardes une série, est-ce que tu es capable de poser ton portable et de rester concentré sur un épisode de 50 minutes?
Non. Vraiment pas. Je suis la première à le faire et c'est pas bien, hein, je reconnais. C'est pour ça qu'après, j'imagine que les scénaristes sont obligés de s'adapter. Parce que quand tu regardes une série ici, au bout de 30 secondes, il se passe rien, tu t'ennuies, t'es déjà en train de faire autre chose. Donc en fait, j'ai l'impression que le Netflix, j'ai trouvé une petite phrase, vous allez me dire si elle est bien ou pas, c'est le McDo du cerveau.
C'est amusant parce qu'il y a un scénariste qui dit en fait aujourd'hui on va proposer de plus en plus des films faciles à consommer, un peu comme la malbouffe, puisque bon voilà, des films qui demandent pas beaucoup de concentration. Si tu perds le fil, c'est pas très grave parce que 10 minutes après tu reviens. Et voilà. Le problème c'est que tout ça va pas nous aider
Non, c'est trivialement une usine à con. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique parce que le monde qu'on vit, c'est ça, et j'en fais partie ô combien. On est tout le temps dans la recherche de quelque chose de nouveau. On est tout le temps dans l'interrogation. Et s'il se passe quelque chose sans moi, je dois être au courant de ce qui se passe. Je dois aussi parler de moi et de ce que je suis en train de faire, etc., etc. Je dois être relié en permanence. Enfin, nous, on a connu une époque. On en parlait encore en début d'émission sur un autre sujet, mais on a connu une époque où il n'y avait pas les portables. Hein. Il n'y avait pas les portables.
Par exemple,
on arrivait à travailler sans être joint toutes les deux minutes.
Est-ce que tu arrives à lire un livre portable à côté?
Non, mais ah oui, ça oui. Ça,
quand tu as la télé, moi je ne regarde plus la télé, sauf des trucs enregistrés, mais pas en direct.
En replay.
Quoi. Alors il y a les actus en continu, oui, ça oui, mais les actus en continu, elles ont un format aussi qui est le même, hein, qui où tout va très vite. Donc c'est fait. Quand on regarde les jeunes aujourd'hui, il y a une difficulté de concentration qui est patente, quoi. Et tout doit être construit sur le fait que la durée d'attention, elle est de 5 minutes maximum, quoi. 5-10 minutes max. Après, on passe à autre chose.
Imagine dans les cours, dans les salles c'est compliqué peur, avec les élèves.
Écoute, moi, je trouve ça, s'il n'en reste qu'un, je ne suis pas le dernier des Mohicans, mais
quand tu fais les ménages, tu n'as pas le téléphone.
Écoute, tu m'as vu avec mon téléphone depuis 3 heures?
Non, c'est vrai.
C'est vrai, oui.
Bon, voilà. Du coup, c'est un outil de travail, comme mon tracteur, comme mes vaches. Voilà, je m'en sers au travail. Je suis comme les autres, hein, je scroller comme un con là dans le train. Là.
Oui. Mais ouais, des fois, j'arrive
à me rendre compte que c'est complètement débile et que quand t'as l'esprit occupé à travailler, bah, t'es pas là-dessus quoi. Après, ce qui m'inquiète le plus dans ce que tu nous décris, à la rigueur que les séries Netflix s'adaptent à ce genre de public, je vais te dire, hein, sans toucher l'autre. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on en arrive à changer le format du sport quoi.
Oui, aussi.
On va faire une Coupe du Monde demain. Là, demain matin, là. On va faire une Coupe du Monde où, parce qu'elle est aux États-Unis, on va couper en carton, oui, avec une pause fraîcheur de 3 minutes, avec une mi-temps qui va durer 20 minutes, et on en arrive à, parce que c'était aussi une étude la semaine sport, dernière, ouais, de dire les jeunes, ils n'arrivent plus à regarder un match en entier sans scroller, quoi. Et moi, je me demande quelle société on va faire. Je t'annonce, toi qui es médecin, que d'ici 20 générations, l'être humain aura les vertèbres soudées et tout arqué dans les cervicales.
Mais tu l'as déjà.
Le nez sur le portable.
Le fait d'être penché comme ça à l'avant, tu l'as déjà.
Et ça, c'est un truc de fou.
Des exercices comme ça.
Non, mais c'est. Mais à un moment donné, décroche de ton portable.
Ce que m'a dit mon kiné.
Bordel. Décroche de ton portable, bordel. Enfin, c'est quand même.
J'arrive pas à comprendre ça.
Non, mais j'arrive pas à comprendre comment. Mais on peut faire l'expérience. On va bouffer tous les quatre au resto. Et à un moment donné, la conversation s'arrête, se coupe, parce que il y en a deux qui passent en mode portable, quoi. Et
la question est de savoir.
Je pense que c'est.
Oui, mais bon, excuse-moi, mais
on a. Ça va avec le sujet d'avant pour moi.
On a des vies à sauver, pardon, mais bon, mais lui, c'est un patient, et moi, c'est un client. Ouais, qui
est alors là, ouais, tu donnes bonne conscience, ma grande. Ouais,
est-ce que c'est pas l'excuse un peu facile?
Mais oui.
Tu te dis, je dois être connecté tout le temps parce que je suis une avocate et je peux avoir un client, une affaire qui arrive. Ben, est-ce que ça, c'est. Ben, t'es aussi sur les réseaux sociaux, donc j'imagine que t'en profites pour regarder tes réseaux sociaux. Oui, c'est pas d'ailleurs.
Quand j'étais gamin, mes parents n'avaient pas
de téléphone fixe.
Ouais.
Et puis alors, ça m'a empêché de faire un homme quoi.
Mais la société n'est plus construite pareil.
Oui, ça a changé, Didier.
J'entends que ça a changé.
Le fait que
Est-ce que dans le changement, on peut pas réfléchir à quel monde on est en train de créer quoi.
Fait que tu es joignable à chaque instant modifie aussi le travail des autres. Moi, bien les gens sûr. Qui travaillent avec moi, je veux dire, ils savent que je suis joignable tout le temps, et donc si ils vont m'envoyer soit des SMS, soit des appels, etc. Toute la journée, à toute heure quoi.
Moi, j'étais au procès hier.
C'est comme ça.
Et je reçois quoi? Je reçois un SMS d'une cliente qui s'est fait battre par son mari. Ben pardon, mais j'allais pas lui dire. Pardonnez-moi, mais l'audience se termine à 23h et je la laisse comme ça dans.
Si
dans
tu peux
le
lui
flou.
Dire, je. Non. Attendez, mon épisode n'est pas terminé.
Ah. Non, c'est
je
pas comme ça.
Je
conçois la conception de mon métier.
Je vous rappelle.
Je finis ma soupe.
Je conçois la conception.
Non mais. Non mais. Quelle société on est en train de faire? C'est-à-dire une société dans laquelle on ne peut plus se concentrer plus de 5 minutes, ça va donner quoi? Alors, là, on parlait des œuvres artistiques.
Qu'on réfléchit pas aux conséquences.
Non, mais ça, on parlait de la lecture, de regarder un film, etc. Mais d'une manière générale, dans la vie.
Mais des bulots!
Est-ce qu'on va pouvoir.
Je te le dis, ça va faire des bulots.
Une réunion, quelqu'un qui te parle, est-ce qu'on va pouvoir tenir une conversation plus de 5 minutes et où à un moment donné on décroche, on comprend pas?
Tu crois pas qu'aujourd'hui, la montée de la violence dans la société où les gens qui sont pas d'accord, ils arrivent plus à dialoguer, ils se mettent sur la gueule. Tu crois pas que c'est lié à ça aussi?
Mais sûr que c'est ça.
Mais moi, je crois que c'est exactement ça. Hein. On y est déjà
sur
dans cette société-là. Et plus ça va loin, quoi. Hein. Apprendre la frustration, apprendre à attendre. Mais c'est quelque chose qui n'existe plus dans notre société.
Mais c'est vrai que nous, on est une génération, notamment enfants, on passait notre temps à attendre. On subissait un peu la loi des parents, on s'ennuyait.
Si t'as été à l'armée, c'était pire.
On n'avait pas des écrans, etc. Donc on restait souvent dans sa chambre. Bon, ben on jouait, mais on s'ennuyait aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on passait. L'enfance, c'était long, quoi, en fait.
Là, on a tué la nuit, et la nuit, c'était formateur.
Oui, c'est vrai.
Parce que la nuit, tu fais l'ennui, je veux dire, tu fais travailler ton imagination.
L'ennui,
c'est formateur.
Non, mais il y a des gens.
Et puis on passe aujourd'hui
qui t'apprennent à t'ennuyer, quoi. Non, mais je me demande dans quelle société.
Et toi, tu t'ennuies jamais,
Non, rarement, quoi.
Oui, parce que toi, t'as beaucoup de boulot.
Oui, puis c'est physique,
du coup,
quoi.
Et puis.
Tu peux pas faire du
boulot. Passe moins de temps au boulot aussi.
Mais après, c'est vrai, mais j'ai aussi cette rigueur. Tu vois, moi, ça m'arrive de me poser devant un match de rugby parce que j'ai décidé que je regardais ce match-là, le téléphone est posé.
Et tu t'endors au bout de 5 minutes.
Mais moi, c'est pareil.
J'en ai pas besoin.
C'est le seul moment où le téléphone est coupé.
Je regarde.
Devant les matchs de rugby.
Oui. Je regarde. Enfin, mais tu vois.
Où j'ai passé commande sur le fait qu'on m'appelle pas maintenant.
Tu vois, par rapport à ce que tu dis, Jérôme, moi, j'ai aussi quelques autres responsabilités, et j'ai la réputation d'être un président casse-couille parce qu'il n'est pas joignable tout le temps, quoi. Et qu'il répond pas rapidement aux SMS, quoi.
à un moment donné.
Tu ne fais pas la dictature du SMS.
Non. Attends, alors, une petite question de femme. Et quand vos femmes vous parlent de leurs petits problèmes, est-ce que vous les écoutez ou vous scrollez? Ah, le piège. Alors,
par contre, j'ai d'autres défauts.
Bien sûr,
je peux avoir la télé allumée à table.
Voilà.
Et ça, ça va
favoriser. La télé allumée à table, c'est le début des
emmerdes. Super, attention, là. Vraiment. Ah. Ouais. Donner une belle image du couple.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Cette cigarette grille des négros de vieux clopos sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices.
Alors, va-t-on vers une génération sans tabac? En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe au Royaume-Uni, puisque nos amis anglais ont décidé d'interdire la vente de cigarettes à toute personne née après 2008, c'est-à-dire ayant moins de 18 ans aujourd'hui. Il s'agit du deuxième pays au monde à instaurer ainsi une interdiction générationnelle après les Maldives. Toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009, et qui ont donc actuellement 17 ans ou moins, ne pourront jamais acheter légalement de cigarettes. C'est assez fort comme mesure. Est-ce qu'il faut faire la même chose? Créer une première génération sans tabac, protégée d'une vie entière de dépendance et de dommages que commet bien sûr le tabac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Laura?
C'est bien, à condition qu'on devienne beaucoup plus strict sur tout ce qui est les vapotes. C'est-à-dire qu'on avait eu un sujet
Vapotage.
Voilà, on avait eu un sujet la semaine dernière.
Dis celle qui vapote.
Oui, complètement. Mais moi, je suis pas 2008. Je suis bien avant. Je suis siècle dernier. Mais, c'est-à-dire qu'il faut pas, que les, siècle dernier.
T'es génération 78?
Non,
93. Génération 78.
C'est Charles qui dit n'importe quoi. Génération 93?
Ouais. Je suis une millénial. Non, mais on avait le sujet la semaine dernière où justement...
Oui, mais d'accord, mais laissons passer de côté le vapotage. Est-ce que c'est une bonne idée d'interdire finalement définitivement le tabac? Parce que c'est ça, derrière.
Écoutez, pourquoi pas? Ou alors faire directement...
Ou est-ce que c'est pas liberticide?
Il faut alors directement supprimer, faire passer le paquet de 10 à 20 euros, arrêter avec les hausses de petits centimes, faire un truc franc
Le paquet est à 12 ou 13 maintenant.
Hein. Tu le fais passer là tout de suite à 20, je pense qu'il y en a qui vont s'arrêter de fumer tout de suite maintenant.
Charles, est-ce qu'il faut effectivement interdire la vente de cigarettes à partir d'une certaine génération pour que ça s'arrête?
Pourquoi pas?
Oui, toi t'es pas contre.
Pourquoi pas? Parce que... même si j'ai eu énormément de plaisir à fumer, je suis content d'avoir arrêté. Je connais des gens qui ont eu des cancers, certains qui ont survécu, d'autres pas. C'est quand même un truc, qu'il faut essayer d'anéantir purement et simplement. Et puis on voit bien que maintenant que c'est un peu sorti de la société, on en mesure toute l'absurdité de la cigarette quand même. Donc, le libéral libertaire que je suis ne serait pas hostile à cette mesure.
Oui, ça va à l'encontre de tes propres convictions.
De salubrité publique. Si quelqu'un veut vraiment fumer, il trouvera.
Ah ben là, il pourra plus. Ah ben non. Là, parce qu'il aura grandi. Oh. Il aura grandi dans un monde sans tabac.
Ouais, tu vas pour, ouais, tu vas à Gare du Nord, tu te trouves
si
un paquet.
Si quelqu'un veut,
mais aujourd'hui,
fumer, il trouvera.
Mais aujourd'hui, là, vous parlez d'une situation. Mais si tu pars d'une génération qui n'aura jamais la possibilité d'acheter la cigarette, forcément la cigarette va s'éteindre définitivement.
Mais de toute façon, on parle dans le vide, il y a tellement de lobbyistes derrière et l'État se fait tellement d'argent sur les clopes que...
Le Royaume-Uni a décidé à réussir.
Regarde, moi par exemple, j'ai piqué les cigarettes de mon père. J'ai fumé une cigarette. Il est plus vivant, donc je peux le dire.
J'avoue maintenant.
J'ai piqué sa Vogue Menthol pour la fumer dans les toilettes. Donc, veut dire que si j'avais été dans cette génération interdite à la cigarette, si t'as quand même quelqu'un, un ami plus âgé, un parent ou quoi que ce soit, tu peux quand même...
Oui, mais tu n'auras plus le droit d'acheter.
Oui, mais il y aura toujours des gens qui vont te le vendre sous le manteau, ou un grand frère ou un ami qui ira acheter au tabac pour toi. Donc, tant que... Dans 50 ans, peut-être qu'il n'y aura plus. Mais je veux dire, ça ne va pas partir comme ça. Et moi, je suis un peu comme Charles. C'est que j'avais deux trucs qui se battaient. Il y avait mon côté liberté qui disait, mais attends, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a le côté qui dit, attends, on vit quand même dans une société collectiviste. Tant que je vis dans cette société, j'aimerais que ce soit interdit. Le jour où on pourra chacun récupérer 50% de notre effort et que chacun va payer sa sécu, à ce moment-là, oui, si t'as envie de fumer et te cancériser, c'est ton problème, tu vois. Mais là, aujourd'hui, on est tous, entre guillemets, dépendants les uns des autres. Donc moi, je dis, pourquoi pas?
Ce qui est amusant, c'est que On va donc quand même, on sent que c'est un peu le sens en ce moment de l'histoire, c'est on va vers une interdiction du tabac. Il y a des villes déjà qui interdisent le tabac, New York, la cigarette. Il y a de plus en plus d'endroits interdits à la cigarette. C'est de plus en plus compliqué de fumer pour les fumeurs. Et puis par ailleurs, on va sans doute dépénaliser le cannabis, comme on le fait d'ailleurs dans d'autres pays.
Mais non,
on va y arriver, vous allez voir.
Non,
donc on arrivera à un monde où on pourra fumer un pétard et on pourra l'acheter. Les bureaux de tabac ne vendront plus de tabac, mais vendront des pétards. Alors est-ce que c'est mieux, pas mieux, mais c'est ça qui est amusant.
Ni l'un ni l'autre.
Non, mais reconnaissez que c'est
paradoxal.
C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on est impitoyable aujourd'hui. On a raison sans doute sur la cigarette. Et en revanche, on se dit, finalement, le cannabis, comme tout le monde en fume, il va falloir peut-être un jour autoriser.
Je sais qu'on est un peu incohérent en France, mais là, je pense qu'on serait cohérent. Tu ne vas pas interdire la cigarette et puis légaliser le cannabis. Ça n'a aucun sens.
Moi, je pense qu'ils en sont capables.
Ben oui, parce que on va dire que le cannabis, ça provoque moins de cancer. Enfin, on trouvera toujours des raisons objectives de dire que c'est moins grave que le tabac, tu verras.
Et ils vont te dire que oui, mais on rouspète pour le trafic de drogue qui fait de la délinquance et ça fait de l'argent parallèle, etc. Là, on crée des.
Et après, certains vont dire, mais pourquoi pas interdire l'alcool? Parce que
là,
moi, je trouve très. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème de liberté? C'est quand même assez liberticide. Bien sûr que c'est mauvais pour la santé. Il y a plein de choses mauvaises pour la santé. Est-ce qu'on doit interdire définitivement un produit parce qu'il peut être mauvais pour la santé si on en consomme?
On en a plein, mais regarde la liste des produits qui sont interdits en France. Des médicaments qui sont autorisés à l'étranger, qui sont interdits ici. Donc, je vois pas pourquoi la cigarette échapperait tout d'un coup.
Non, mais c'est déjà très restreint. Est-ce qu'il faut aller vers l'interdiction totale?
Si tu veux vraiment une liberté pour tout le monde et quelque chose de respectueux pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fumes une cigarette, toutes les maladies qui peuvent découler d'un tabagisme actif ne sont plus prises en charge par la sécurité sociale.
Ouais, et là,
mais tu vois, en fait, tu peux réfléchir à plein de choses, mais je peux comprendre aussi le positionnement de Joël. Moi, je suis pour qu'on interdise. Mais je peux.
Non, mais c'est marrant, parce que tous les trois, vous êtes pour l'interdiction totale.
Parce que la clope.
Et en même temps, vous avez des grands discours sur la liberté. Mais bien sûr, c'est pas bon. Il y a plein de choses qui sont pas bons. Pardon, je suis désolé, le sucre, c'est pas bon.
Pour moi, on peut pas le comparer à l'alcool, par exemple. Je suis désolé quand même, le vin, etc. Il y a autre chose que la dose d'alcool dedans. Les gens ne boivent pas.
Ça ne crée pas la même dépendance.
Pour se shooter à l'alcool.
Tu tombes plus vite fumeur compulsif que buveur compulsif.
C'est quand même un truc où tu fumes quand même essentiellement pour t'envoyer un coup de nicotine dans le cerveau. Mmh. Bon,
reprenais l'argument de Joël sur la santé. Oui. Il faut faire attention à ce type d'argument parce qu'il y a beaucoup de produits que nous consommons qui sont mauvais pour la santé. Si on commence à interdire tous ces produits-là, c'est un problème de liberté aussi.
Mais par destination, normalement, ils ne le sont pas. Si c'est en surdose qu'ils le deviennent. Enfin, par exemple, si on prend le sucre. Souvent, on fait le comparatif avec le sucre. Le sucre, en temps normal, bien consommé, t'as pas de problème. Mais en surdose, ça devient un problème. La cigarette,
c'est un problème dès la première
fois. Ne serait-ce que la composition du produit en lui-même, bon,
tu
peux pas dire que c'est hyper sain. Donc non. Et en plus, pour la cigarette comparée à l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool, normalement, quand toi tu bois ton verre de rouge, enfin, je veux dire, moi, j'ai aucun risque d'avoir un seul gramme dans le sang, normalement, à moins que...
Non, mais tu peux subir les conséquences de ton alcoolisme.
Oui, c'est vrai.
Pardon, mais les violences conjugales,
c'est vrai aussi.
Très lié à l'alcool.
C'est vrai aussi, mais la cigarette, quand même, ne serait-ce que même dans le goudron, la nicotine, enfin, toi, rien qu'à la fabrication, tu te dis non, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que l'autre, c'est du raisin fermenté, bon, je ne le mettrais pas.
Mais quand vous parlez que du vin, ça vous arrange? Mais pardon, quand je parle d'alcool, c'est les alcools forts, c'est aussi les gens qui se mettent minables, c'est l'alcoolisme, c'est le drame de... Enfin, c'est des drames humains, l'alcoolisme.
Moi, ça diminue l'alcool, la consommation de l'alcool diminue chez les jeunes. Donc, il y a aussi ça. Et
la cigarette aussi, ça diminue.
Donc,
La cigarette, ça diminue aussi.
Ici, ça diminue.
Ça diminue, notamment chez les jeunes, qui se mettent maintenant à vapoter.
Il n'y a que 3% des jeunes jusqu'à 17 ans, je crois, qui fument. Mais le problème, c'est pour ça que je parlais du vapotage, c'est qu'en parallèle, tu as tout un commerce avec des produits rigolos qui font des multicolores quand tu tires dessus, au goût, machin et tout. En fait, ça devient un truc récréatif, de la même manière que nous, on pouvait avoir les pièces en chocolat après l'école. Ben, c'est le truc récréatif. Donc, en fait, tu ne peux pas juste faire ça, mais laisser libre cours à tout un nouveau marché que peut être le vapotage pour les jeunes, puisque les ravages, on ne peut pas vraiment encore bien les connaître. On sait qu'il y a des trucs pas bons, on sait que de toute façon, il vaut mieux respirer un truc pur tout court que de mettre n'importe quoi dans tes poumons, mais on n'a pas encore conscience de tout ce que ça peut donner comme dégâts, puisque le truc, allez, ça fait peut-être quoi, 5 ans que c'est vraiment qu'on voit tout le temps quelqu'un avec une vapote, des nuages de fumée de dragon, des trucs lumineux. Donc, tu peux pas, encore une fois, c'est exactement le même parallèle que tu as fait avec le cannabis. Tu ne peux pas interdire fermement et drastiquement un produit quand tu as des dérivés qui sont autorisés à côté. C'est soit, mais c'est un peu le problème de notre gouvernement, c'est qu'à chaque fois,
au-delà même de ce gouvernement,
c'est toujours des fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'on fait un truc, mais on le fait pas complètement.
C'est vrai, mais moi je dis que c'est à tester quand même.
Je suis assez
preneuse de nouvelles idées.
Oui, mais c'est pour ça que soit tu fais, soit tu fais pas, parce que c'est quand même.
Du slip à la cigarette.
Non, mais c'est radical. C'est-à-dire que si tu décides que toute personne née après une certaine date ne pourra jamais de sa vie acheter des cigarettes légalement, c'est pas un test. Tu y vas ou tu y vas pas.
Pas dans ce pays là.
Et tu fais pas de vapote et interdiction à la vapote non plus. Enfin, j'estime que tant que tu commences pas, tu peux pas devenir accro. Et en fait, c'est là tout le drame.
Ça marche quand, par exemple, en France, ça marche si t'es à Orléans, mais tu vois, si tu vis sur les côtes et que t'es un frontalier.
Les jeunes de 18 ans, ils vont pas aller acheter à la frontière.
T'achètes ta cartouche, faut te la payer quand même. Hein.
C'est leurs parents qui font ça.
Oui.
Toi, t'as acheté ta première cartouche à quel âge?
Non. C'est la question piège. Tu sens le journaliste. Je n'ai jamais acheté de cartouche. Non, j'ai fumé qu'une seule cigarette, celle de mon papa.
Ah bon, une seule?
Oui, que je lui ai piqué, que je lui ai volé, et puis c'est tout. Après,
ça t'a pas donné envie d'acheter un paquet
de cigarettes? Non, je me suis dit non.
Et toi, Charles, t'avais commencé à quel âge?
Spécial.
Pas très tôt. 17 ans.
Ouais,
17 ans.
C'est tôt, quoi.
Bah, t'aurais pas pu, là.
Mais j'adorais fumer, je devrais pas le dire à l'antenne. J'adorais
fumer.
De toute façon, si beaucoup de gens fument, c'est parce qu'il y a un plaisir derrière. Et pourquoi t'as arrêté?
Parce que je voulais arrêter avant 25 ans, en me disant que si je n'arrêtais pas avant 25 ans, j'aurais beaucoup de mal après. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, j'ai arrêté grâce à un livre miracle qui s'appelle La méthode simple pour en finir avec la cigarette. D'Alain Carr, qui a marché.
Un best-seller.
Et parce que par ailleurs, j'étais tellement accro que ça rendait compliqué pour moi le fait de prendre l'avion, par exemple. Je ne le supportais pas parce que j'étais, dès le début du vol, obsédé par la cigarette que j'allais pouvoir fumer en sortant de l'aéroport
à l'arrivée. Très dépendant.
Et quand je prenais le train, je descendais à toutes les gares fumer des clopes. Donc j'étais
une vraie dépendance.
Extrêmement dépendant, mais c'était en même temps un grand plaisir. S'il m'arrive une énorme tuile dans la vie, peut-être que je reprendrai.
On va écouter Vincent. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour à tous, bonjour à l'équipe.
Merci d'avoir appelé 32-16, parce que vous avez été un gros fumeur, vous l'êtes encore?
Oui, je le suis toujours, malheureusement.
Vous avez quel âge?
J'ai 56 ans.
Et vous avez commencé à quel âge?
14 ans.
Ah ouais. Si cette interdiction avait été effective à votre génération, ça vous aurait aidé?
Sans aucun doute. Sans aucun doute, ça m'aurait évité pas mal de soucis.
Donc vous êtes plutôt d'accord avec ce qui se passe au Royaume-Uni?
Oui, à 100%.
Mais vous n'arrivez, parce qu'en fait vous êtes vraiment dans une dépendance, j'imagine. Vous avez, ou alors vous dites non, j'ai pas envie d'arrêter, j'aime ça, tant pis.
Non, j'aime pas ça du tout. Pour être honnête, là actuellement j'en suis à 2 paquets de 25 par jour.
Ah oui.
Financièrement c'est énorme, c'est plus de 30 € la journée.
2 paquets de 25 par jour.
Oui. Ah ouais.
Vous avez lu la méthode simple?
La méthode Alain Carr.
Alain Carr. Je sais pas si c'est lui, mais j'ai lu un bouquin il y a quelques années qui était soi-disant la recette miracle. Mais quand on est vraiment intoxiqué, c'est très très compliqué.
Il y a l'hypnose aussi qui peut marcher. Moi, je connais des gens qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose.
Ça a pas marché,
je vous recommande Alain Carr.
Moi,
je connais aussi des gens qui ont arrêté avec Alain Carr.
Beaucoup, je fumais beaucoup, beaucoup. Alors, j'étais plus jeune, c'était peut-être un peu moins installé dans ma vie.
Combien tu fumais?
Parfois, je fumais 2 paquets. Facilement,
2 paquets.
Ouais. Si je sortais le soir, je fumais largement 2 paquets.
Ça va vite.
Mais j'ai fait beaucoup de sport aussi, qui ont peut-être contribué.
Bon, ben, bon courage à vous, Vincent. Mais Vincent, gros fumeur qui n'arrive pas à s'en sortir, dit, moi, j'aurais aimé qu'effectivement, on interdise à une génération de fumer comme au Royaume-Uni.
C'était le best-of des GG, le best-of des grandes gueules. Restez avec nous. Lundi prochain, les GG reviennent bien sûr en direct au cœur de l'été. En attendant, on se retrouve demain.
À demain, 9h pour le meilleur des GG. Bon été.
RMC, 9h midi. Le meilleur des grandes gueules.